7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un bon prof? À l'heure où l'on peut apprendre beaucoup sur Internet avec des vidéos, les bons professeurs s'interrogent face à la génération zapping. Les enseignants doivent-ils avoir le charisme des youtubeurs pour transmettre des connaissances? On va en parler avec nos invités. Bonjour Aymeric Patricot.
Bonjour.
Vous êtes romancier et professeur de lettres. Vous avez fui une carrière toute tracée en entreprise pour devenir professeur. Votre parcours atypique, la liberté de vos choix et le labeur quotidien aussi de faire progresser des élèves. Tout cela est raconté dans Les bons profs aux éditions Plein Jour. On sera aussi en ligne avec Philippe Vatrelot qui forme les futurs enseignants à Paris. Et quant à vous les voisins, on attend vos appels, étudiants ou profs. Vous êtes très nombreux sur nos réseaux sociaux à nous raconter comment un enseignant a changé votre relation au savoir et votre destin peut-être. Et du côté des enseignants, on aimerait aussi vous entendre. Appelez-nous surtout, n'attendez pas la fin de l'émission. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone gratuit, WhatsApp. Et vous pouvez bien sûr poster des messages écrits. En fin d'émission, l'Afrique qui gagne, portrait d'Alex Ogou, le réalisateur d'une série télévisée sur les enfants microbes en Côte d'Ivoire, ou comment s'interroger sur la violence et l'errance de ces jeunes.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Mais tout de suite, qu'est-ce qu'un bon prof? C'est un métier sur lequel tout le monde, ou presque, a un avis à partager. Au micro de Lohan Nader.
Pour moi, un bon prof, c'est quelqu'un qui est pointu sur ce qu'il nous apprend. C'est-à-dire qu'on peut lui poser n'importe quelle question, il nous répondra toujours dans les clous.
C'est un prof qui sait à la fois faire le cours, mais savoir faire des parenthèses avec d'autres choses, donner des exemples, par exemple avec des films, des séries et des choses que tout le monde connaît.
C'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses élèves, mais qui ne se laisse pas non plus trop marcher sur les pieds.
C'est un professeur qui est proche de ses élèves, c'est-à-dire avec qui on va vraiment bien s'entendre, avec qui il va y avoir de l'échange.
Un bon prof, il ne punit pas ses élèves, il ne fait pas de différence entre les élèves.
S'il y a un bon courant qui passe bien et que le professeur est bon dans ce qu'il fait, on va en cours motivé et on essaie d'apprendre des choses, du moins en allant en cours.
Pour moi, un bon prof, c'est un prof qui essaye de comprendre comment les élèves marchent, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard et essayer de les guider sans forcément les juger.
C'est une personne qui va être attentif à l'élève, qui va faire attention aux difficultés qu'il peut avoir, tout en faisant en sorte que le reste de la classe ne soit pas impacté par cette solution et que tous les enfants puissent avoir le même niveau d'éducation et avoir une certaine égalité dans leur éducation.
Ma pire expérience, je pense que c'est les amphithéâtres interminables avec voilà, un prof qui vient, qui lit son cours et qui a des slides toutes prêtes qu'il a tiré peut-être des fois d'un autre prof, et là ça devient vraiment long et on peut décrocher très rapidement et au bout de 20 minutes on n'écoute plus le cours.
Il y a beaucoup de profs qui sont là parce que ils ont raté ce qu'ils voulaient faire avant et du coup forcément, ça répercute sur les élèves. Ouais.
Selon moi, le type de pédagogie qui devrait être utilisé devrait ressembler à ce qu'il y a en Scandinavie, par exemple au Danemark, où on fait attention à ce que les enfants puissent apprendre par le visuel, par l'écriture, mais par le sport également, qui vont après permettre à l'enfant qui a des difficultés à l'écriture ou des difficultés à visualiser un élément, de réussir lui aussi, et donc du coup de permettre à un ensemble et non pas seulement à certains élèves, comme il est le cas dans l'éducation nationale en France.
Aymeric Patricot, alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans toutes ces exigences, une liste quand même infinie, vous qui avez été 10 ans enseignant de lettres dans des établissements difficiles, collège, lycée, maintenant vous êtes prof en classe préparatoire, à Troyes, dans l'est de la France, une petite ville. Vous reconnaissez dans toutes
oui,
ces
oui,
exigences.
Oui, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, mais moi je vois deux grandes tendances dans ce que les élèves attendent. Ils veulent des bons profs dans le sens des profs efficaces, qui apportent des connaissances, qui préparent aux examens, aux concours. Bon. Et puis une deuxième dimension qui est une dimension plus humaine, la bienveillance, l'échange, etc. Et c'est vrai que ça me paraît être les deux pôles, disons.
Ce qui peut sembler un peu paradoxal.
Alors dans le livre, je dis que justement non. C'est vrai qu'il y a une grosse pression sur le prof pour qu'il soit efficace, mais s'il n'était qu'efficace, ce serait insupportable. ce serait un peu inhumain. Donc les deux, au contraire, vont bien ensemble. Le côté humain compense le côté très rigide de l'enseignement des contenus et des méthodes.
Encore faut-il savoir doser les deux, l'efficacité, l'humanité. Ali nous poste ce message de Bukavu en RDC. À la question « Qu'est-ce qu'un bon prof ?», il répond « Mon prof de conjugaison, il m'a aidé à savoir conjuguer tous les verbes, à tous les temps, tous les modes. Mon prof de grammaire, à connaître la concordance des temps, l'emploi du participe passé, ses accords. Un bon prof doit être courtois avec ses élèves, intelligent, maîtriser sa matière et être ponctuel en cours. » Voilà, c'est ce que vous disiez, l'efficacité et puis le savoir-être.
D'ailleurs, c'est drôle ce qu'il dit, puisque la dictée est tombée un peu en désuétude depuis quelques décennies.
Du moins en France.
Mais j'ai toujours remarqué que les élèves aimaient les dictées. Donc souvent, contrairement à ce qu'on nous dit de faire, je fais des dictées et ça plaît beaucoup. Ça rassure beaucoup les élèves.
Kondi poste ce message de N'Djamena au Tchad. « Mon papa, ce prof, ce monsieur, cet as des maths, ce James Bond de l'éducation, j'avais mon prof principal comme papa à la maison. En classe, il n'a jamais exclu un élève. Pour punition, il te faisait t'asseoir devant, à même le sol, pour ne pas que tu rates les explications. Il arrivait à tracer les cercles à main levée. Sa phrase culte, ce matin, en venant à l'école, et là, commençait une histoire banale qui animait ensuite la classe et captait l'attention pour la suite de son cours. Bravo, mon champion et héros. » C'est incroyable, parce qu'il y a beaucoup d'anciens élèves qui ont eu leur père ou leur mère comme enseignant, et ils n'ont pas aimé en général.
Oui, on n'aime pas, mais ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est le côté prestigieux de la figure du prof. Un prestige qui est un peu moins reluisant aujourd'hui. On sait que le prof suscite moins d'admiration, aussi parce que son salaire est un peu en berne. Donc c'est amusant de voir des gens qui trouvent encore que le prof est quelque chose de lumineux comme ça.
Ou en tout cas dans le passé. Dans votre livre « Les bons profs », Aymeric Patricot, vous vous décrivez comme un ancien névrosé de la réussite scolaire. Pourquoi ?
J'étais un enfant de la petite bourgeoisie, très respectable, et donc je devais travailler. Et c'est vrai que j'ai surinvesti un peu l'école. Donc j'ai souvent été premier, deuxième, troisième. J'ai eu le sentiment d'avoir passé ma jeunesse à l'école. Alors ça m'a appris plein de choses, et puis j'ai fait un beau parcours scolaire et universitaire. Mais parfois je me demande, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Est-ce que les élèves doivent vraiment se soumettre entièrement au système? J'ai un doute. Je pense qu'en fait un élève équilibré travaille bien à l'école, mais développe aussi sa personnalité à côté. Bon, c'est un peu un message paradoxal du livre, mais j'aurais envie de dire aux élèves, en tant que prof, ne vous soumettez pas entièrement au système.
Pas entièrement, c'est pas ça. Entièrement. Alors vous êtes quand même assez susceptible à l'époque, parce qu'un prof qui vous dit que vous avez beaucoup de facilité, ça vous vexe. Un élève anxieux ou envieux plutôt, un élève qui vous envie par vos brillantes notes et qui vous dit « Ah bah en fait, c'est surtout du travail, hein, la façon dont tu fais pour y parvenir », ça vous vexe aussi. Alors finalement, qu'est-ce que vous attendiez de ces notes fulgurantes, notamment au bac scientifique, où vous êtes meilleure moyenne de toute la région ?
Alors, le passage que vous venez de citer, ça fait référence à la différence entre le talent et le travail. Il y a des gens qui ont un talent inné et d'autres qui travaillent. Bon. Si on vous loue pour vos talents, vous pouvez être par ailleurs paresseux. Bon. Si on vous loue pour votre travail, ça peut sous-entendre que vous n'êtes pas vraiment talentueux. Donc c'est vrai que des hommages comme ça, soit tu es un gros bosseur, soit tu es très talentueux, il y a toujours le reproche, il y a un reproche niché dans l'éloge. Bon. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir 18, c'est ça ?
Ouais.
En fait, il y avait une angoisse d'être jugé, c'est vrai. En fait, dès que mes notes tombaient en dessous de la barre de 15, il y avait cette angoisse peut-être de ne pas être aimé. Alors ça, c'est un autre sujet important dans l'éducation. Est-ce que les profs doivent aimer les élèves au sens les accompagner, leur faire passer une certaine bienveillance, effectivement. En France, je pense qu'il y a un certain déficit à ce niveau-là. On est un système, contrairement à ce qu'on dit parfois, assez strict, assez désincarné.
C'est rare. Assez froid dans les relations.
Assez froid, je pense. Oui, oui. Alors je me pose la question dans le livre, d'où vient cette froideur ? Est-ce que ça vient d'une lointaine culture catholique, voire janséniste, comme j'ai pu lire parfois? Est-ce que ça vient d'un idéal politique qui est de dire il faut être un peu rude avec les élèves pour qu'ils s'insèrent dans le monde du travail et que les fils d'ouvriers acquièrent une culture aussi forte que celle des bourgeois? Je ne sais pas, sans doute un mix des deux, mais c'est vrai que je pense qu'en France, les professeurs sont en général assez peu empathiques. En tout cas, il y a quelques décennies, j'ai l'impression que ça change un peu.
Alors, vous avez donc été un très bon élève. Vous avez du coup naturellement été orienté vers les classes préparatoires, les concours aux grandes écoles de commerce, reçu à HEC, grande école de commerce la plus prestigieuse. Vous avez freiné ensuite, tout d'un coup, vous avez pris une autre route à la mort de votre père. Et puis ensuite, ce sera l'agrégation de lettres, que vous avez raté quand même deux fois avant de l'avoir. Et vous êtes devenu enseignant. Comment vous avez su que c'était pour vous alors que vous aviez cette carrière toute tracée pour devenir dirigeant ?
Oui, bon. En fait, j'ai mis vraiment 10 ans à trouver ma voie. J'avais fait HEC parce que je me sentais un peu rêveur, un peu un télo, et je me disais que l'entreprise au moins m'apprendrait la vie. Je me disais, tiens, je vais participer à la société, je vais faire des choses. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était pas le cas, que c'était un peu naïf d'opposer les livres à l'entreprise. Et puis c'est vrai qu'à la mort de mon père, je pense que j'ai eu un mouvement instinctif de retour un peu aux choses qui me plaisaient vraiment, et j'ai compris qu'en entreprise, j'aurais pas le temps ni de lire ni d'écrire. Donc je pense que j'avais en moi un vrai amour de la littérature qu'il n'était pas possible d'épanouir en entreprise. Donc progressivement, je suis retourné à la fac, j'ai redécouvert la culture, j'ai bouffé de la culture, entre guillemets, pour rattraper les cagneux qu'eux avaient beaucoup étudiés. Et puis, autre élément, j'avais quand même une image assez négative du métier de prof. Pour moi, le prof, alors j'en parle dans le livre, il y a un côté un peu misérable de la vie du prof qui passe sa vie dans les livres et face à des élèves et qui, au fond, est un peu à côté de la société. Donc, j'avoue qu'à 20 ans, c'est un métier qui ne me faisait pas du tout rêver. Et puis, j'ai appris à le découvrir, à l'aimer, à la fois pendant 10 ans quand j'étais à la fac et que j'ai préparé les concours, et puis une fois que je suis devenu prof. Bon, et maintenant, c'est un métier qui me plaît parce que j'ai compris la beauté de la transmission, du contact avec les élèves, avec cette jeunesse. Et puis, je dois le dire aussi, parce que c'est un métier qui laisse un peu de temps. Alors, c'est vrai que les profs sont souvent critiqués parce qu'ils ont du temps, mais moi qui avais envie d'écrire des livres, c'est un des quelques métiers qui m'offre cette liberté.
Et il y a d'ailleurs aussi une liberté intellectuelle, pas seulement une liberté de temps dans l'emploi du temps, une qui vous laisse des cases libres dans le cerveau aussi.
Alors il y a ça, et puis aussi qui oblige à fréquenter des classiques. Finalement, en tant que prof et notamment en prépa, on est constamment obligé de relire des classiques, Shakespeare, Platon et compagnie, chose que on ferait peut-être pas spontanément si on n'était pas prof. Donc on reste en contact avec une culture très vivante, permanente, c'est vrai.
Oui. Mais comment on s'affranchit du regard des autres.
Vous voulez dire pour
devenir prof.
Ça a été plus fort que moi. Hein.
Quand on a été à HEC.
Bah, en général, ça surprend et les gens trouvent le virement plutôt sympathique. Moi, beaucoup de mes amis ont fait HEC et ont des très belles carrières. Ils gagnent 5 fois plus que moi, 10 fois plus que moi. Ils sont PDG. Bon. Mais en même temps, eux souffrent parfois de ne pas avoir le temps de lire ou d'écrire ou de faire du sport ou que sais-je. Donc j'assume parfaitement ce choix qui est d'avoir une vie assez modeste financièrement, mais d'avoir l'occasion, effectivement, de découvrir ce beau métier et puis de fréquenter la littérature de manière vivante. Quoi.
En 2013, vous avez publié un essai sur les petits blancs, un voyage dans la France d'en bas. C'était les gilets jaunes d'aujourd'hui. Déjà
effectivement. En tout cas, en partie. Dans les petits blancs, en 2013, j'avais fait le portrait notamment de plusieurs paysans qui se sentaient un peu pauvres et qui se sentaient humiliés par la politique et les médias parce que personne ne parlait d'eux. Et je me rappelle très bien des paysans qui disaient « Mais nous, personne ne nous écoute parce qu'on ne brûle pas de voiture. Bon. » Et puis, on est un peu isolés, on n'est pas nombreux, donc jamais on se révoltera. Et puis, 5 ans plus tard, il y a eu la révolte. Donc, c'est vrai que j'estime que les gilets jaunes sont en partie des petits blancs. Mais les petits blancs, c'était vraiment une frange assez misérable de la population. C'était vraiment les blancs pauvres. Les gilets jaunes, selon moi, sont un cran au-dessus des petits blancs en termes de pouvoir d'achat. Disons que c'est possible que ce thème-là donne lieu à un prochain livre, hein, on verra.
Est-ce que l'école, le système scolaire plutôt, hein, je ne cite pas les enseignants, mais le système en tant que tel de l'éducation nationale est en partie responsable d'une colère en France qui ne faiblit pas ?
Vous me demandez si les gilets jaunes, la crise serait pas de manière assez lointaine liée au système scolaire. Alors, il y aurait 1000 choses à répondre là-dessus. Peut-être assez indirectement. Peut-être qu'aujourd'hui, on attend infiniment plus du système scolaire qu'il y a par exemple 30 ans. Comme tout le monde passe par le système scolaire, comme tout le monde passe le bac, comme tout le monde passe des diplômes, comme tout le monde a envie d'avoir un bon job, il y a parfois une incompréhension de la part de certains qui ont justement des bons diplômes et qui se retrouvent dans des métiers durs, avec des pouvoirs d'achat qui stagnent. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un aspect, une dimension de déception. Alors c'est pas que l'éducation nationale serait fautive, elle n'est pas responsable de ça. Mais le niveau moyen de formation a nettement augmenté depuis 50 ans. Et du coup, certains ne comprennent pas qu'effectivement, il y a encore du chômage et il y a de la souffrance au travail.
Et donc d'autant plus de pression pour les enseignants.
Alors, c'est un des aspects essentiels de mon livre. Il y a une vraie pression.
Ça, vous l'avez ressenti tout au long des 10 années, d'ailleurs, dans des établissements difficiles. Vous l'avez senti s'accentuer.
Je ne sais pas si je l'ai senti s'accentuer, mais j'ai toujours senti et j'ai précisé mes idées là-dessus à l'occasion de l'écriture du livre. Pour moi, en fait, si je fais la synthèse de ce que je pense de l'éducation, il y a 3 idéaux principaux. Un idéal humaniste qui est d'épanouir l'élève, un idéal, disons, citoyen, qui est d'apprendre aux élèves l'esprit critique, la vie en société, et puis un troisième idéal qui est un idéal peut-être plus social, parfois économique, en tout cas un idéal d'insertion dans la vie adulte. Et ces trois idéaux-là pèsent sur le prof. On lui demande de former les élèves à être citoyens, mais aussi on leur demande de leur apporter des compétences, comme on dit, pour trouver un bon travail. Et ça s'accentue mécaniquement par le fait de la massification scolaire, par le fait aussi de la compétition entre pays à l'échelle internationale. Donc oui, il y a une exigence, à mon avis, qui est beaucoup plus forte sur le prof et que j'ai senti, quels que soient les niveaux, même dans les collèges difficiles, les élèves attendaient du prof qu'il soit bon.
C'est ça. Et tout ça dans une forme de séduction aussi. Alors on va parler des méthodes de travail, du charisme aussi qu'on exige de vous, de la transmission du savoir, de l'autorité, de l'encouragement, des notes. On en parle avec vous. Vous pouvez bien sûr nous appeler, les voisins et les voisines. Qu'est-ce qu'un bon prof aujourd'hui? Appelez-nous surtout si vous êtes enseignant. 33 1 84 22 71 71. Allez, on ne résiste pas, Aymeric Patricot, à vous offrir cette chanson de M, Grand Petit Con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand, grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand, grand petit con.
Je vous passe devant, j'étais là avant vous. Vous ne m'aviez pas vu? Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne. Je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, que de petit tellement je suis un grand, grand petit con.
Un grand petit con.
C'est parce que je veux.
Maintenant, ce sont les jeunes qui traitent les adultes de grands petits cons dans leur, on va dire, dans leur naïveté par rapport au drame de l'environnement. Je pense aux grandes manifestations des jeunes, hein, des adolescents qui veulent contraindre les pouvoirs publics à prendre de vraies mesures pour le réchauffement climatique. Vous avez vu la Suédoise,
oui, c'est étonnant, oui.
Greta, qui dit que les adultes ne prennent pas la mesure du sérieux de la situation. C'est quand même le monde à l'envers. Vous avez plutôt connu les enseignants en salle des profs qui traitent les élèves,
oui, c'est vrai,
de petits cons, non, quand ils n'ont pas
c'est
travaillé.
Vrai. Oui, il y a une décontraction des élèves aujourd'hui qui n'existait sans doute pas il y a 30 ans, ça c'est sûr. Et le thème de l'écologie, c'est un des deux, trois thèmes qui s'imposent auprès des étudiants. Je leur fais souvent faire des exposés en début de cours sur les thèmes de qualité. L'écologie, c'est 50% des exposés, c'est vrai.
Allez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Qu'est-ce qu'un bon prof aujourd'hui? Un souvenir posté par Chantal à Dakar.
Bonjour, c'est Chantal de Dakar. Moi, j'ai eu trois profs que j'ai retenus pour être vraiment de bons profs. C'est des gens d'abord qui connaissaient leur matière, qui savent se faire respecter et qui sont clairs. Le premier, c'était en cinquième, en prof de français. Le premier qui faisait même le plus petit bruit, il se retourne, il sait qui c'est. Il l'appelle par son nom, il écrit son nom sur une liste qu'il vient d'ouvrir et il lui dit « ne viens plus à mon cours, sors ». Quand il a fait ça pour 3, 4, peut-être 5 élèves, toute l'année, on était tranquille. Et ses leçons étaient claires, précises en grammaire. Il n'avait même pas un livre ou un cahier avec lui. Tout était bien fait. C'était le prof le plus respecté de cette année-là, de 5e. En 4e, un prof de maths, là je vais dire son nom, M. Amar, son cours était juste clair, c'était intéressant et tout le monde était attentif. Je pense qu'avec de lui, beaucoup d'entre nous ont fait au moins vraiment un certain minimum dans les études. Je le remercie au passage. Et le troisième, c'était un professeur belge au lycée, un professeur de français en première. Souvent, on avait 4 heures de cours de français. Mais vers le milieu du cours, vers 2 heures de temps après le début, il y a un moment où il fait comme s'il frissonne. Il fait une pirouette avec ses yeux et il sort le globe oculaire qui devient très blanc avec le noir au milieu. Et tout le monde tombe dans un fou rire. Nous rions, nous commentons un peu. Il refait le frisson, il reprend le cours et c'était vraiment bien. En même temps, son cours était clair, le français était vraiment bien enseigné. Tous les trois et les autres aussi, je les remercie.
Voilà, c'était l'hommage de Chantal à Dakar pour ses 3 enseignants de génie. Une forme de théâtralité de l'enseignement, aujourd'hui, c'est encore de mise. En tout cas, c'est une question que vous vous posez beaucoup, Aymeric Patricot.
Ben oui, alors c'est la fameuse deuxième dimension qui est celle de l'humanité ou du charisme. Alors c'est des choses auxquelles on n'est pas du tout formé à l'UFM. Enfin, à mon époque, c'était l'UFM. Aujourd'hui, dans les ESP, peut-être que ça a changé. Mais le fait d'incarner le cours, on est sur une estrade finalement. Moi, j'ai le sentiment d'être un acteur. Quand la porte s'ouvre et que les élèves rentrent, on rentre dans la peau soi-même d'un acteur. Bon. Et pour s'imposer, alors le témoignage est assez émouvant, assez sympathique. Pour s'imposer, c'est vrai qu'il faut faire preuve d'une autorité, mais souvent l'autorité découle d'un charisme. Alors, soit il est naturel, je connais des profs qui ont un charisme naturel, bon. Soit c'est un peu travaillé, ça passe par des effets de voix, ça passe par des changements de rythme, ça passe par de l'humour.
Parce qu'aujourd'hui, en réalité, vous êtes en concurrence, vous, en tant que prof, avec YouTube. Avec des centaines et des milliers de vidéos qui enseignent des choses aussi, pas la même chose, mais que les jeunes regardent, aiment regarder, qui sont bien faites, avec des personnes qui sont face à la caméra, qui savent comment parler, qui sont...
Oui, c'est vrai.
Autrefois, il n'y avait que le prof qui savait bien parler, finalement.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai un petit doute, est-ce qu'ils vont vraiment voir des vidéos sur l'histoire de la littérature ou les maths, j'ai un petit doute. Mais c'est vrai qu'on est rentré dans une époque de communication où tout le monde est en compétition de communication. Donc on est forcément amené à comparer le prof avec ce qu'on voit à la télévision, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a vraiment un décalage, notamment en France. On n'est pas vraiment une culture de l'oral, finalement. Je pense que les anglo-saxons mettent beaucoup plus en valeur la notion de prise de parole. Et les profs eux-mêmes ne sont pas formés à ça, les élèves non plus. Même si chez Blanquer, alors c'est étonnant...
Jean-Michel Blanquer, le
ministre, il y a ce fameux projet de... Alors je ne sais pas si ça va vraiment avoir lieu, mais ce projet de grand oral au bac... qui est très nouveau, je trouve, et qui est une vraie inflexion vers le système anglo-saxon, qui est d'apprendre aux élèves à prendre la parole, c'est vrai.
Alors justement, on est en ligne avec Philippe Vatrelot. Bonjour Philippe Vatrelot.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales, et vous formez les futurs enseignants à, autrefois on appelait ça l'IUFM, maintenant c'est l'École supérieure du professorat et de l'éducation, l'ESPE, de Paris.
Oui.
On parlait de l'épreuve orale, de la difficulté pour les enseignants, à une époque où tout est oralisé aujourd'hui. Je parlais de la culture YouTube qui a quand même eu une large influence. Comment est-ce qu'on enseigne aux jeunes à devenir enseignant, à devenir charismatique, à intéresser à sa matière?
Voilà, il y a beaucoup de questions dans ce que vous demandez là. Moi je dirais d'abord que effectivement tout cela s'apprend, et y compris l'autorité. L'idée d'une autorité naturelle, moi je la discute, dans le sens où on peut très bien avoir mal commencé sa carrière et puis progressivement acquérir de l'assurance, de l'aisance, par évidemment la pratique régulière, mais aussi par un travail collectif. L'autorité, ça se construit aussi collectivement, et ça, c'est important. Donc, il me semble important de ne pas réduire, je voulais quand même le souligner, de ne pas réduire l'autorité au seul charisme.
Oui.
Parce qu'il peut y avoir aussi une dérive qui serait l'emprise, la séduction. Or, on n'est pas que cela, et votre interlocuteur, Aymeric Patricot, le disait très bien tout à l'heure, on est là aussi pour transmettre des connaissances, évidemment. Ce qui est important aussi, c'est de considérer que quand on enseigne, quand on veut enseigner, il faut aussi s'interroger sur la dimension narcissique de ce métier. Qu'est-ce qui nous pousse, moi ça fait 38 ans que j'enseigne, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir être écouté d'une bande de 30, 35, 40 gamins ou adolescents? C'est une vraie question qu'il faut, qu'il faut poser.
Émeric Patricot, vous la posez beaucoup, vous quand même. Vous vous demandez quel homme je suis quand je suis sur l'estrade, comment je suis vu, comment je suis perçu.
Alors justement, deux petites remarques à propos de la sévérité. C'est amusant comme les choses changent vite, puisque ce mot-là a longtemps été un gros mot. Dans les années 80-90, on considérait que l'autorité, la sévérité, c'était du côté de la répression et qu'au contraire, il fallait mettre l'élève, comme on disait, au centre du système.
Donc, c'est pas compatible.
Et c'est pas incompatible, évidemment. D'ailleurs, moi, je suis pour qu'on mette l'élève au centre du système. Mais c'est amusant comme maintenant, on réfléchit à la notion d'autorité, on dit que ça s'apprend.
On parle d'autorité et pas de sévérité.
Oui.
Vous citez le mot sévérité, j'ai été étonné d'ailleurs.
Oui, alors c'est encore un autre sujet. Oui, c'est vrai qu'il y a parfois de la sévérité. Mais c'est amusant comme aujourd'hui, le mot autorité revient sur le devant de la scène et est étudié en tant que tel.
Il n'en est jamais vraiment parti. Hein. Je pense que faut se déprendre aussi du discours qui serait celui de la restauration de l'autorité. Les enseignants dans les classes continuent à exercer l'autorité. Et l'autorité, c'est justement obtenir des élèves des choses autrement que par la contrainte. Hein. Et alors, ça suppose aussi effectivement d'assumer un rôle d'adulte qui consiste à fixer un cadre pour que tout le monde puisse apprendre. Je voulais juste revenir sur un point qui est important. C'est, je ne pense pas que c'est ça en étant forcément au centre de l'attention, en étant dans une disposition frontale, hein, pour reprendre un terme qu'on utilise quelquefois, qu'on est forcément le meilleur en tant que prof. On peut être aussi un très bon prof en étant dans le côte à côte plutôt que dans le face à face.
Alors, je vous lis juste le message d'un auditeur qui a posté Lionel de Kinshasa en République démocratique du Congo, où malheureusement encore beaucoup d'enseignants utilisent la chicotte. Curieusement, nous dit Lionel, mon prof préféré, c'était celui qui me frappait chaque jour. Il cherchait à ce que je sois le meilleur en classe et partout. Il me posait beaucoup de questions par rapport aux autres. Et pour moi, c'était de l'injustice. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était pour me rendre service. Alors, je ne lis pas ce message, évidemment, pour dédouaner les enseignants maltraitant, mais il peut y avoir aussi une relation compliquée entre les élèves et l'enseignant.
Alors, sans aller jusqu'à ce genre de choses, j'ai toujours remarqué, quand je suis arrivé en banlieue, qu'il y avait un décalage entre les attentes des élèves et les attentes de l'institution.
Oui,
bah oui. Je me rendais compte que les élèves appréciaient les profs sévères, justement, qui obtenaient le silence. Et peut-être que un bon prof, c'est avant tout, dans certains établissements, le prof qui arrive à obtenir le silence. Et je vous promets que c'est pas facile. J'ai eu du mal les premières années à obtenir le silence.
Est-ce qu'on vous l'a enseigné, ça, à l'IUFM à l'époque?
Non, je pense qu'on a progressé là-dessus, mais j'avoue qu'au début des années 2000, puisque j'ai commencé à enseigner à ce moment-là, non, c'était pas du tout enseigné. On l'évoquait, mais jamais personne nous a expliqué qu'il y avait des techniques, effectivement, pour ça. Quelques techniques simples. Mais non, c'était un tabou. Je pense que c'était un vrai tabou. Et puis, parce qu'il y avait aussi le tabou qui était les classes qu'on n'arrivait pas à maîtriser. Personne prenait vraiment la mesure du phénomène. Moi, j'en ai parlé en 2011 dans mon livre, là-bas, Autoportrait du professeur. Le fait de voir une classe entière se soulever, se mettre à hurler, personne ne nous avait préparé à ça.
Bon. Philippe Vatrelot, pourquoi les enseignants sont quand même rarement satisfaits de la manière dont ils sont formés aujourd'hui?
Ça, c'est un vieux sujet et je pense que de toute façon, quel que soit ce qu'on propose comme formation, il y a d'une certaine manière une forme de refus de ce qui est souvent vécu comme quelque chose d'infantilisant. Pour revenir à votre question initiale, oui, aujourd'hui, on enseigne cela. Il y a des cours de ce qu'on appelle gestion de classe. Oui. Moi, j'en ai assuré pendant de nombreuses années. Là, j'ai arrêté. Mais alors, en même temps, est-ce que ça se limite à apprendre des techniques? Pas seulement. C'est aussi peut-être justement d'abord réfléchir à son rôle et à la manière de se positionner. Moi, je dis souvent en blaguant que il faut, quand on est enseignant, assumer le côté obscur, c'est-à-dire le côté obscur de la force, le fait d'assumer la sanction, la punition. Mmh. Alors, ça peut être de la sévérité, comme dit l'auteur, mais c'est quelque chose qui est quand même important à anticiper dans la réflexion qu'on peut avoir. Quoi. Voilà.
Aymeric Patricot, vous parlez quand même aussi de la notion de plaisir dans la relation à la transmission du savoir et dans le fait que les élèves aussi éprouvent du plaisir à apprendre. Je vous lis un message de Rachel, qui est professeure de français en Inde, qui a posté sur nos réseaux sociaux. Un bon prof doit avoir un bon rapport avec ses étudiants, comprendre que chaque étudiant est différent avec ses points forts, ses points faibles, parce qu'au bout du compte, les notes ne sont pas importantes, ce sont les talents, les capacités d'une personne qui sont importantes. Et puis il y a aussi Elena qui poste d'Indonésie. Un bon prof, c'est celui qui permet aux élèves de trouver du plaisir dans les activités qu'il propose, même si elles semblent arides à certains. Est-ce que aujourd'hui, les profs ne sont quand même pas d'abord des machines à donner des notes ?
Alors, effectivement, j'en parle dans le livre. J'ai appris à prendre la mesure de cette notion de plaisir de l'éducation, notamment par rapport au texte en français. Je pense que pendant longtemps, même si encore une fois c'est en train d'évoluer, on a réduit un peu les textes à une approche très technique, les figures de style, le commentaire de texte, etc. Et on a perdu peut-être la chair de la littérature. Et aujourd'hui, je suis très attentif à ça. Par exemple, je sais pas, quand on lit une fable de La Fontaine ou d'autres textes très contemporains, je suis très attentif au fait de faire passer de l'émotion. Et moi, ça me donne du plaisir. Je me dis, tiens, je redécouvre moi-même telle fable en la relisant. Mais avant d'étudier les figures de style, je cherche à montrer l'émotion qu'il y a dans le texte, le côté compliqué d'un point de vue humain. C'est presque une question de sagesse ou de philosophie. J'ai redécouvert ça, bizarrement, après 10 ans de métier. Et je me demande si c'est pas là un moyen de retrouver le contact avec les élèves et de faire que les élèves aient envie d'apprendre, c'est vrai. C'est de montrer que la littérature, c'est aussi de la jouissance littéraire.
Dans ce système que vous décrivez comme relativement froid, finalement, hein, Philippe Vatrelot, aujourd'hui on entend beaucoup dans de nombreux pays la place, la valeur de ce qu'on appelle l'éducation positive. Lilia nous poste le message suivant du Canada. Elle parle d'un prof de linguistique anglaise à la fac qu'elle a eu, qui était très, très structuré, très méthodique, mais il nous félicitait à chaque réponse pertinente, vous savez, très Amérique du Nord, enfin. Et pour ceux qui n'avaient pas de très bonnes notes, il disait « je sais que vous pouvez faire mieux ». C'est pas la culture française.
Non, malheureusement, c'est vrai qu'on est très marqué en France par la note comme un instrument de sélection. Hein. C'est comme ça qu'elle a été instituée en France. Hein. C'est vraiment pour habituer les élèves à la sélection. Et donc, on a du mal avec cette dimension positive, comme vous le dites, de l'éducation. Et on n'apprend pas assez aussi à faire des compliments, à encourager. Et je crois que c'est un aspect important de ce qu'est un bon prof. Un bon prof, c'est quelqu'un qui est exigeant, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de reconnaître les difficultés. Moi, je dis souvent, en faisant un petit jeu de mots, que l'expert doit pas oublier qu'il est un ex-pair, c'est-à-dire avoir un devoir d'empathie. Hein, voilà, il y a cette phrase aussi de Bachelard que j'aime beaucoup, qui dit rien de plus incompréhensible que celui qui ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas comprendre.
Oui. Et c'est souvent le cas des profs qui ont été de très bons élèves et qui ne comprennent pas pourquoi c'est si difficile.
Bons élèves. Voilà. Et donc être un bon prof, c'est aussi ne pas oublier les moments où on a été en difficulté.
Alors oui, deux petites remarques à ce propos-là. Moi, en tant que prof, finalement, j'ai toujours eu beaucoup, presque plus de sympathie pour les, entre guillemets, les cancres ou les derniers de la classe, parce qu'ils gardaient un côté humain parfois rigolo.
Mais c'est parce que vous regrettez d'avoir passé votre vie dans vos fiches, enfant aussi et adolescent.
Mais parce que aussi, qu'en tant que bon élève, j'ai rarement senti de la bienveillance des profs. Finalement, quand on est un bon élève, on passe inaperçu parce qu'on est sage, on a toujours des bonnes notes. Bon, alors que le prof va passer plus de temps finalement à essayer de sauver le petit dernier. Donc peut-être qu'en tant qu'ancien bon élève, je me dis mince finalement. J'ai moins tiré l'attention que si j'avais eu 5 sur 20.
On va demander l'avis d'un auditeur qui nous appelle un voisin de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Diderot.
Bonjour madame.
Vous êtes enseignant d'espagnol. Vous aimez bien nous appeler d'ailleurs quand on parle du métier d'enseignant. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur de définir votre relation avec vos élèves. Alors quel prof êtes-vous Diderot ?
Ah, je suis le prof qui inspire.
Le prof qui inspire, c'est-à-dire
J'ai toujours pensé que l'enseignant doit être quelqu'un qui va au-delà du simple fait de transmettre des connaissances. Mm-hmm. C'est vrai qu'il doit avoir ces connaissances-là, dans sa matière d'abord, et ensuite des connaissances générales, savoir les transmettre, et être capable d'aller au-delà de l'école, c'est-à-dire rentrer dans la société et essayer d'insérer ses apprenants dans cette société. Il faut éduquer l'homme. Parce que après la vie de l'école, il y a l'école de la vie. Mmh. Alors, l'enseignant qui inspire, c'est donc celui-là qui permet et facilite l'intégration des élèves dans cette société-là, leur permettre de se comprendre eux-mêmes et de se forger un chemin.
Mais par quoi ça se traduit pour vous en tant que professeur d'espagnol? Comment on peut devenir professeur de vie et avoir cette dimension philosophique finalement dans votre métier?
J'ai choisi l'espagnol juste comme un moyen.
Ah oui.
En réalité, quand je tiens mes élèves, je ne parle pas que de l'espagnol, je parle de l'homme, je parle de la société, je parle de la vie, parce que l'espagnol, c'est, comme disait Hemingway, c'est un patrimoine. Et c'est quelque chose qui est lié à l'homme, et tout ce qui est lié à l'homme ne peut pas m'être étrange. C'est tout. Donc, c'est juste un moyen qui me permet d'aider mes élèves à s'accomplir eux-mêmes. C'est ça.
Et qu'est-ce qu'ils disent de vous en tant que prof d'Hydro? Est-ce que vous savez que disent les élèves de vous?
Les avis sont partagés.
Ah oui.
Et il y en a qui pensent que je suis très méchant parce qu'ils confondent méchanceté et rigueur.
Oui.
Oui, j'ai été habitué à être très, très strict. Et c'est ce que j'inculque à mes élèves. Donc, ceux qui ne veulent pas travailler les paresseux, du coup, ils trouvent que je suis méchant.
Oui.
Par contre, la grande majorité, on me félicite tout le temps et. Ce sont les premiers inspecteurs parce qu'ils renvoient et relaient les informations aux supérieurs et de là viennent d'autres reconnaissances et tout.
Ouais, donc vous êtes reconnu en tout cas dans votre approche. Merci beaucoup Diderot de nous avoir appelé du Cameroun. Vous êtes d'accord avec cette dimension, Patrick Emerico, sur le aller au-delà de ce pourquoi vous êtes payé d'une certaine manière?
Ah oui, bien sûr. Oui. Ça nous ramène au premier idéal qui est l'idéal humaniste. Je pense qu'en fait ça fait partie du charisme. Les profs qui ont du charisme, c'est peut-être ceux qui arrivent à suggérer aux élèves qu'ils ont une vie autre que celle qui est dans la classe et qui sont porteurs de valeurs qui dépassent complètement la matière. Bon. D'ailleurs, juste je pourrais nommer un film qui est Les Anges au poing serré, un film américain des années 60, dans lequel justement un prof afro-américain arrive à maîtriser une classe très difficile en leur apprenant la vie, en fait. Il est prof de maths, mais il finit par leur apprendre la cuisine, la danse, etc. Et il fascine les élèves pour ça. Ça devient un prof de vie, tout simplement.
Ouais. Un message de Younoussou qui est à Niamey, au Niger, et qui nous dit « Être un bon prof, c'est apprendre le leader aux élèves. Alors est-ce que en tant qu'ancien diplômé d'HEC, vous êtes toujours diplômé d'HEC, mais ça vous agace ou pas cette comparaison finalement d'une certaine manière avec l'entreprise? Parce qu'il y a des profs que ça peut énerver.
Alors, c'est d'ailleurs une des tendances lourdes de l'enseignement. Certains le déplorent, d'autres s'en félicitent. Le fait que l'école soit désormais poreuse à certaines valeurs du management. La notion de compétence, par exemple, qu'on entend de plus en plus, se serait inspirée par le management. Alors, certains trouvent ça très bien parce que ça prépare les élèves aux exigences de l'entreprise. Ça les oblige à être capables d'agir dans tel ou tel contexte. D'autres regrettent que cette notion de compétence et de leadership efface justement l'idéal humaniste ou citoyen.
C'est votre cas? Vous êtes agacé par...
Non, enfin, de toute façon, la tendance est trop lourde. Elle est ridicule, souvent. Mais la tendance est tellement lourde que je pense qu'il faut s'en accommoder et chercher à en tirer le meilleur.
Philippe Vatrelot, c'est vrai qu'aujourd'hui, on transmet des méthodes de management également dans les instituts de formation des enseignants?
Non, et puis je ne pense pas d'ailleurs que la question du leadership soit réductible à la seule dimension du management. C'est quelque chose qui apparaît dans plein de dimensions de tous les métiers. Moi, je voudrais, alors je ne suis pas du tout d'accord non plus avec la question de la compétence, mais je ne voudrais pas entamer un débat là-dessus. Pardon, moi, je voudrais surtout insister sur un point, c'est que jusque-là, on parle du métier d'enseignant comme un métier essentiellement solitaire, individuel. Or, je pense qu'aujourd'hui, un bon prof, c'est aussi un prof qui envisage non seulement son métier dans le cadre de la classe, mais aussi dans l'établissement, d'une manière plus globale, et puis aussi un métier qui se vit collectivement avec d'autres collègues. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il faut se sortir de cette représentation d'un métier solitaire et d'un exercice libéral de la profession, presque. Hein.
Aymeric Patricot, vous êtes d'accord, parce que beaucoup d'enseignants parlent tout de même d'un métier solitaire par rapport à d'autres métiers où on travaille en équipe.
Alors, c'est vrai qu'il y a des équipes, bon, mais après, quand on est devant la classe, on est seul. Hein, bon, il y a quand même ce...
Pas forcément.
Non, c'est vrai. Bon, mais disons 80% des cas, on est seul. Mais c'est pas... C'est ce qui fait la beauté et la difficulté parfois du métier. Tout peut très bien se passer. Il y a des moments de grâce qu'on est seul face à 30 élèves, et puis il y a des moments de désespoir parce qu'on perd le contrôle. Bon. Mais oui, face aux élèves, on est un peu seul. Oui.
Qu'est-ce que vous avez gardé finalement comme souvenir ou comme plaisir et comme amertume de ces 10 années passées dans des établissements difficiles, puisque maintenant vous êtes plutôt avec des élèves plus favorisés en classe préparatoire?
Le côté positif, c'est le contact avec les élèves. Il y a une énergie, beaucoup de gens très sympathiques, beaucoup de gens qui veulent s'en sortir, beaucoup d'intelligence. Le côté négatif, c'est forcément beaucoup de situations très dégradées, des collèges un peu en perdition, des intrusions de violence, des collègues parfois désespérés, mais qui ne veulent pas le dire. Bon, il y a un sentiment d'étouffoir souvent, d'omerta. Bon. Donc ça, c'est vraiment la façon. Mais les élèves, finalement, sont les mêmes partout. Bon, il y a une richesse de la patte humaine, comme j'aime bien dire, qui est merveilleuse. Bon, voilà, c'est les deux faces.
Le prochain livre, ça sera sur quoi?
Ben je pense que je vais écrire les mauvais profs. Ce serait amusant d'écrire un livre sur les mauvais profs.
Voilà, et ce sera effectivement assez provoquant. Merci Aymeric Patricot. Vous
Merci
publiez
vous.
Les bons profs aux éditions Plein Jour. Merci à vous Philippe Vatrelot d'avoir été en ligne avec nous. Vous formez les futurs enseignants à l'école supérieure du professorat et de l'éducation SP de Paris. Merci. Dans quelques instants, l'Afrique qui gagne, portrait aujourd'hui du réalisateur franco-ivoirien Alex Ogou. À suivre. Am I dumb? Am I blind? 'Cause I don't see what you're doing. You don't speak your mind. Do you know how that can feel sometimes? No, I do not deserve that pain. And you do not deserve to move on. Tell me why do you try when I keep pushing you away? Do you like when we fight? Do you like when I get this way? And you do not deserve that pain. And I do not deserve to move on. Will it end? When will we begin? When will we be happy again? We can do better here, so much better than this. I'll be happier with or without you. Without you. With or without you. I feel it all. You can say that you do, but somehow you still would do me wrong. Yo, why do we keep going through this? I swear sometimes you are so clueless. But I'm not gonna lie, sometimes I can't come off too strong. 'Cause I know what I want doesn't mean I should be going off. I know somehow we'll still get through this. I swear sometimes I feel so clueless. Happy, Maxine Ashley chez 7 milliards de voisins sur RFI, nous sommes en direct et c'est une série 100% africaine et l'une des plus regardées sur Canal Plus Afrique dont on va parler maintenant, Invisible, qui se penche sur les microbes, ces jeunes de 8 à 25 ans qui agressent par bande ceux qui se trouvent sur leur route dans les rues d'Abidjan, d'Abobo à Adjamé, d'ailleurs en passant par Atécoubé. Ils se sont eux-mêmes baptisés microbes, le phénomène est apparu en 2011 après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et Charlie Dupiot a rencontré le réalisateur franco-ivoirien de cette série fiction, Alex Ogou. C'est notre invité pour l'Afrique qui gagne. Mais d'abord, extrait de sa série Invisible en français en Nouchi, dialecte des rues d'Abidjan.
Pourquoi t'as mêlé ma soeur à Nonyaga?
Parce que t'es un chouchou, Tchara. C'est ce que j'ai fait aux Ogou. Je le tue. Je vais pour moi.
Tchara, regarde ce qu'on a trouvé.
Ah, ne t'en prends pas à elle.
Ok. On va avec elle.
Je te jure que même si je dois finir avec toute la famille des Chaka pour te venger, comment je le ferai?
Je suis passionné de cinéma depuis j'ai 13-14 ans. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans à Marseille. J'ai fait toutes mes études jusqu'à commencer à travailler dans le cinéma comme comédien à l'âge de 17 ans. Après ça, je suis monté à Paris, continué à travailler dans le cinéma et à faire des études d'anthropologie, de sociologie, et qui m'ont amené aujourd'hui à être réalisateur et à décider de rentrer en Côte d'Ivoire pour, je pense, essayer de mettre à contribution ce que j'ai appris, de pouvoir faire des choses, raconter des choses.
En 2015, quand vous rentrez à Abidjan, vous entendez parler des jeunes qu'on appelle les microbes ?
Que ce soit dans les taxis ou bien à travers mes amis, ils me parlent des faits divers qui se sont passés la nuit, la veille, en me disant « Ah, mais c'est vraiment, on fait encore ces gamins-là qui ont, ils ont fait des descentes, ils ont tué des gens. » Évidemment, ça m'a interpellé. Et lorsque la réaction des gens face à ce sujet est d'exterminer les enfants, pour moi, ça devient problématique parce que je pense que ça ne peut pas être une solution systématique de se dire on va éradiquer des enfants aussi malfaisants qu'ils soient. En fait.
À Abidjan, certains habitants effectivement en viennent au lynchage de ces microbes qui peut conduire à leur mort.
Et à travers mes recherches, la première émission que j'ai écoutée qui m'a vraiment convaincu qu'il y avait quelque chose à faire sur ce sujet, ben, c'était une émission de 7 milliards de voisins.
Nous avions fait un reportage dans 7 milliards de voisins sur ce sujet-là.
Donc la série se raconte sur 10 épisodes de 52 minutes. Et ça raconte l'histoire de Chaka, un gamin de 13 ans, qui vit dans une famille avec père, mère et une grande sœur, Adjara, de 16 ans. Et le père, qui est au chômage depuis longtemps, ne fait que sombrer dans l'alcool et la violence. Où la situation familiale devient complètement intenable lorsque la mère se fait déguerpir d'un marché de fortune sur lequel elle travaille, où elle vend des marchandises. Donc lorsque la mère, qui est la seule à subvenir aux besoins de la famille, perd son travail, Chaka et sa sœur Adjara décident de quitter le domicile familial à Yopougon pour aller, comme on dit à Abidjan, se chercher, à savoir essayer de trouver des petits boulots en allant dans une autre commune, la commune d'Abobo, où vit un grand cousin à eux. Ben, cette commune est le fief des microbes. Et qu'en plus de ça, le meilleur ami de Chaka fait partie d'une bande de cette commune. Et il va l'entraîner en fait dans cette bande lorsque Chaka verra qu'il ne pouvait pas travailler à cause de son jeune âge. Voilà, donc après je vous laisse découvrir la série.
Pour le tournage, vous avez essayé de recruter parmi des jeunes microbes.
J'avais pensé le projet comme pouvant être aussi une catharsis pour des gamins microbes qui auraient pu se jouer eux-mêmes. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que, en tout cas, sur les plus de 200 gamins que j'ai rencontrés, c'était difficile d'en trouver capable de retenir un texte et de les projeter dans ce que pourrait être un tournage, quoi. À savoir 5 mois de tournage, avant ça 2 mois de préparation. Voilà, donc c'est un challenge que j'ai voulu relever mais qui s'est avéré quand même un peu compliqué. Et du coup, on a ouvert le casting à des jeunes écoliers, lambda, d'Abobo, de Yopougon, qui n'avait jamais joué et qu'on a formé pendant 2 mois avec deux des comédiens de la série, Prudence Maïdou et Karim Abdoul Konaté.
Souvent, on s'attache aux personnages qu'on suit dans les séries. Et est-ce que la société ivoirienne était prête à ça, à s'attacher à un microbe ?
C'était ça le challenge déjà par rapport à ce sujet, de se dire, attends, comment je vais emmener les gens à vouloir suivre quelqu'un qui commet des exactions, qui va tuer des gens, tout ça.
Et on le voit à l'écran être violent.
Oui, on le voit être violent, mais vous ne pouvez pas faire l'économie non plus, à un moment donné, de les montrer en train d'agir. Voilà. Que ce soit pour boire de l'essence, que ce soit pour agresser des gens, à la machette, au couteau. Il y a des gens qui ont été des victimes de microbes, qui ont vu la série, qui m'ont témoigné beaucoup de choses. Ce qui était intéressant, c'est que leur discours derrière ça, c'est je comprends mieux certaines choses, on ne peut pas les pardonner, mais on comprend mieux certaines choses et c'est clair qu'on ne peut pas dire qu'il faut les exterminer. Voilà. Moi, une fois que ça a été dit et compris, mon travail est fait, c'est qu'on amène à se poser des vraies questions en fait.
Alex Ogou, qu'est-ce que c'est pour vous l'Afrique qui gagne ?
L'Afrique qui gagne pour moi, c'est une Afrique qui va chercher à être excellente dans tous les domaines d'activité avant de se penser être excellent en tant qu'Africain dans un domaine d'activité. Mais pour un exemple du cinéma, je vais vous dire tout simplement, j'aimerais qu'on dise de moi que je suis un grand réalisateur et non pas qu'on dise que je suis un grand réalisateur africain.
L'Afrique qui gagne avec Alex Ogou. Alors, aucune saison 2 n'est prévue pour cette série. C'est le choix du réalisateur Alex Ogou. Mais sachez qu'il prépare une autre série qui portera cette fois sur le cacao en Côte d'Ivoire toujours. Et le tournage doit commencer dans les prochaines semaines. Merci à toute l'équipe. Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Vous pouvez nous réécouter bien sûr sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique des émissions ou nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et demain, 7 milliards de voisins, ce sera le rendez-vous. rendez-vous des tchatcheuses. Trois femmes journalistes commentent l'actualité en direct et bien évidemment vos messages et vos commentaires en direct également. À demain les voisins et les voisines.